I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, l'épisode de, je ne sais même plus, 3 ou 4 de la saison 2, l'épisode 14 en tout cas. À mes côtés pour parler cette semaine, il y a deux personnes, Raphaël Masmejean tout d'abord, bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
L'habitué évidemment de Channel Random, mon binôme, qui est rejoint par Camille Sarabène, que vous avez déjà entendu dans une autre émission. Bonjour Camille.
Bonjour.
Camille, tu avais été avec nous, je crois que c'était la deuxième, c'était deux ou trois, pour parler bière à l'époque. Cette fois, on va parler de tout autre chose, puisqu'on va parler cinéma. Faut-il en finir avec Star Wars? Alors, c'est notre question du jour. On a anglé la question sur Star Wars pour faire plus de buzz, évidemment. mais on va parler de saga en général. On va aussi parler de tout ce qui est héros en slip, notamment Fast and Furious, Jurassic Park, Rambo. Enfin, il y en a plein. Il y en a dans tous les sens. Vous allez voir que la liste est assez délirante. The Mandalorian a repris aussi du côté de Star Wars. C'est ce qui a notamment motivé le sujet de cette émission. Après 3 films de plus, après 2 spin-offs, après X séries d'animation, on va faire un point sur tout ça.
Juste et, avant de lancer et la saga jingle, est en train d'être.
Est-ce que vous avez.
Ouais, je disais que la saga en plus passe actuellement de... sur C8 ou TMC, je ne sais plus laquelle, mais.
Et ben écoute, Raphaël, tu as assuré la transition pour notre premier jingle et la bande-annonce de cette émission. On est parti. Hier soir, c'était. Alors, hier soir, au moment où on enregistre, c'était Star Wars 2 qui était diffusé à la télé. Donc, générique.
Je n'aime pas le sable. Il est grossier, agressif, irritant. Il s'insinue partout. Alors qu'ici, au contraire, tout est une douceur infinie et d'une grande beauté.
La gêne faite réplique de cinéma, Star Wars 2 évidemment, avec Anakin Skywalker, futur Dark Vador, qui avait évidemment des sentiments sur le sable avant d'être le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Question très simple pour commencer, messieurs, à quel moment en est-on arrivé au Star Wars de trop? Vous avez le droit de me dire jamais, hein, si vous trouvez qu'il n'y en a jamais trop. Camille, tu es notre invité, je te laisse commencer.
Dès l'épisode 1, presque pour ma part. Quoi. Après, c'est plus la manière de le produire qui a fait ce qu'il est, mais oui, c'était presque déjà trop, ou en tout cas mal produit, ouais. C'est ça.
Ok, je pensais pas que tu remonterais si loin, tu vois. Raphaël, à quel moment c'est devenu trop pour toi?
Écoute, je rejoins en partie Camille sur le 1, parce que quelque part, moi, la jeunesse de Dark Vador, j'en avais un peu rien à foutre, enfin, sincèrement, j'ai jamais eu de problème à commencer une œuvre à un endroit, aller jusqu'à un autre, et j'ai jamais eu ce besoin de revenir en arrière pour comprendre comment un tel il en est arrivé là. Enfin, c'est pas quelque chose dont j'avais besoin. Donc perso, il y aurait pas eu la jeunesse de Dark Vador. J'aurais adoré les 3 films sur Luke, ce grand méchant qui en fait. Enfin voilà, tu vois, ça m'aurait complètement suffi. Donc je comprends en partie le 1. D'un point de vue, on va dire, histoire, cinéma, je rejoins Camille. Et après, si, vraiment, dans le sens catastrophe industrielle, j'avais pas besoin d'un 7, quoi. Enfin, ça, c'est encore pire que tout, quoi.
Bon. On a des petits soucis d'enregistrement, mais on a bien entendu que ça a commencé au 1, Raphaël. On rappelle, Star Wars, c'est 9 films, 3 films dérivés, 5 séries télé et un grand univers étendu dont Disney s'est plus ou moins désolidarisé après 2012. On va pas rentrer dans les technicalités complètes, mais ça vous donne un petit peu le spectre Star Wars. Juste pour dire, moi je laisserai un pass sur la prélogie au sens où elle est du même auteur que l'original. Donc, je peux comprendre, enfin, je lui laisse le bénéfice du doute, ou même si ça ne m'a pas forcément plu, de dire c'est le même auteur, c'est son œuvre. Donc, je dirais que c'est aller trop plus loin après la prélogie pour moi. Mais je peux comprendre aussi le fait que l'enfance de Dark Vador soit pas passionnante. À quel moment, alors c'est une variante de cette question-là, mais à quel moment vous avez lâché, si vous avez lâché ? C'est-à-dire à quel moment vous avez dit là j'en ai marre, j'ai même pas envie de regarder ce truc-là ?
Pour moi, en fait, c'est. Enfin, je veux dire, la prélogie, j'étais ado quand elle est sortie, enfin, l'épisode 3 est sorti, j'avais 18 ans. J'étais dedans, j'ai bien aimé les films, mais effectivement après la sortie de l'épisode 3, j'ai pas tellement cherché à regarder les films, ça m'intéressait plus, alors que par contre j'étais à fond un peu dans l'univers Star Wars, enfin j'ai fait des jeux vidéo, des séries, enfin j'étais pas mal, enfin j'ai toujours été fan de l'univers, mais finalement les films je les ai pas regardés jusqu'à finalement la sortie de l'épisode 7. Je me suis un peu, ça m'a redonné envie de tout revoir, et c'est là que je me suis rendu compte que ouais, en fait, peut-être c'était pour ça que je les regardais pas, c'est qu'ils me plaisaient pas tellement en fait.
Mais... Ouais, mais du coup, est-ce que tu continues à regarder, tu vois, genre là, est-ce que tu regardes The Mandalorian ?
Oui, je regarde. Non, mais je suis toujours assez friand de l'univers, donc il y a, même si je suis critique sur les films, mais par contre l'univers m'intéresse toujours autant.
Donc tu t'as pas encore vraiment lâché, on est d'accord ?
Non, mais...
Bon. Raphaël, est-ce que t'as lâché ?
Moi, je dirais que j'ai un peu lâché, mais après, je pense que je suis pas forcément un cas représentatif des grands fans de Star Wars, dans le sens où, finalement, moi, je n'ai regardé que les films, en fait. J'ai pas regardé Mandalorian, j'ai dû tomber sur un ou deux épisodes des séries animées, mais sans jamais regarder plus que ça. Pour moi, Star Wars, ça a toujours été, j'ai pas lu de bouquins sur les univers, pour moi, Star Wars, ça a toujours été les films, et donc je me suis contenté de regarder que les films, en fait. Donc, je les ai tous vus plusieurs fois, voilà. Donc, au final, j'ai jamais vraiment lâché l'univers, parce que si tu le réduis à 6 films, enfin 6-9 films, ça va vite, donc tu lâches pas vraiment, quoi. Mais surtout que c'était une saga, donc quand même, tu vas au début de ta saga et t'essayes d'aller jusqu'au bout de celle-ci. Donc, j'ai pas vraiment lâché parce que je me contente des films, en fait.
Est-ce que t'es allé voir Solo au cinéma ?
Non, j'ai eu la chance de pas le voir au cinéma et du coup de le voir après à la télé. Je sais pas si on reparlera de Solo à un autre moment, mais j'aurais mieux fait de pas le voir, je pense. Ouais,
c'est de la daube, hein, tu peux le dire.
Ah ouais, moi j'ai trouvé que c'était une catastrophe. De toute façon, ça c'est déjà les chiffres, enfin un box office, tout ça ont montré que ça a été une catastrophe, hein, mais j'ai senti que ça allait être une catastrophe à cause du marketing qu'il y a eu autour, puisque pour rappel, ils avaient sorti la pub de Solo pendant le Super Bowl. Donc avec grosse hype, ça devait être incroyable. Et en fait, plus on s'approchait de la date de sortie, moins Disney communiquait dessus, en fait. Il y avait de moins en moins de com autour du film. Donc déjà, tu sentais qu'il y avait une espèce de... Ça tournait pas très clair, parce que normalement, les Star Wars, t'en bouffes de la bande-annonce pendant 6 mois avant la sortie. Or là, progressivement, le film a disparu des radars. Et tout d'un coup, ah tiens, il sort en mai, au fait. Et donc, je sentais qu'il y avait une couille dans le pâté, comme on dit.
Mais alors, Solo, c'est un peu le même problème, d'ailleurs, que d'autres films récents de Star Wars. Est-ce qu'il sert à quelque chose ? Est-ce que la dernière trilogie sert à quelque chose, par exemple ? Ou est-ce qu'on est définitivement rentré dans l'âge des franchises, de l'industrie, du fanservice ?
Non, t'as bien résumé le truc. Je pense qu'elle sert pas vraiment. Elle aurait pu, hein, t'aurais pu faire quelque chose avec ce qui restait de l'univers et faire quelque chose de bien. Mais je pense que finalement, oui, ils sont perdus. Ils ont produit ça. Ils ont produit un peu 3 films à la suite sans vraiment avoir une cohérence de trilogie avec des attentes au niveau du box-office, des attentes au niveau de ce que les fans recherchent, comment c'est vendu. Donc effectivement, ils sont perdus dans une production qu'ils ne maîtrisaient pas totalement.
Raphaël, est-ce que c'est les films les plus oubliables ? Enfin, tu vois, est-ce qu'on en garde quelque chose, quoi, de ce qui s'est passé ces 10 dernières années autour de Star Wars, quasiment ?
Non, c'est sûr qu'on n'en garde pas grand-chose, parce qu'ils apportaient pas... Encore une fois, ils apportaient pas une saga qui semblait finie à la mort de son héros, enfin pas de son héros, mais de son personnage méchant principal. Et donc forcément, il y a un côté rajouté pour rajouter sur ces 3 derniers épisodes. Donc je dirais que non, ça apporte pas grand-chose et t'en retiens pas... grand chose, d'autant plus dans la manière où ils ont été construits, avec un 9 qui vient détruire ce que l'8 a essayé de faire et d'ouvrir comme champ de possibilité. Donc en plus, je trouve que ça se... Voilà, t'oublies tout, ouais.
Alors, l'actu du moment, c'est The Mandalorian. Camille, c'était celui qui a le plus suivi. Moi, j'ai lâché au bout de deux épisodes, très honnêtement. Est-ce que, là encore, ça sert à quelque chose ou est-ce que c'est du pur marketing? On voit Baby Yoda partout, par exemple. Je vais pas vous mentir, je l'ai pris pour faire la miniature YouTube de cette émission. Parce que ça marche. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un propos? Est-ce que ça apporte quelque chose aussi?
C'est compliqué parce que pour l'instant, le mythe un peu du Mandalorien, le mythe un peu de Yoda et enfin de sa race. C'est toujours intéressant. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est des saisons assez courtes où il se passe pas grand chose et où finalement ça raconte pas grand chose. Et on a eu une saison un peu une où on avait trois premiers épisodes qui mettent en place, donc qui sont intéressants. Suivi de trois autres épisodes où c'est un peu des quêtes annexes, comme on va dire, où le baby Yoda ne sert à pas à grand chose. Pour finalement avoir deux derniers épisodes un peu plus intéressants, mais qui racontent un peu tout ce qu'on voulait savoir dans une saison, condensé dans un épisode où finalement ça raconte un peu à la va-vite ce qu'il faut le raconter, quoi. Et le début de la saison 2 est un peu pareil, c'est un peu vide, ça manque de propos, ça manque de choses à raconter. Il y a toujours Baby Yoda, mais qui sert pas à grand chose dans la narration. Et du coup, c'est vrai que ça fait un peu, c'est bien fait. Ça se base sur des mythes, sur des sujets intéressants, mais ça manque toujours de rentrer un peu dans le sujet, de raconter quelque chose.
T'as dit beaucoup trop de fois le mot pas grand chose pour que ça nous donne envie de regarder.
C'est dommage parce que c'est bien fait. Ça joue bien, il y a des personnages intéressants, mais ça manque un peu de faites progresser un peu l'histoire, raconter des choses, quoi.
Alors revenons un petit peu sur les sagas en général, messieurs. Je vous propose déjà une question un peu simple, mais compliquée, très compliquée même à la fois. C'est très perso. Qu'est-ce qui pour vous fait une bonne saga en général? Est-ce qu'il vous faut un bon méchant, un bon gentil, un bon univers? Alors évidemment, vous allez me dire dans l'idéal un peu de tout ça, mais c'est quoi? Dans les sagas que vous aimez, c'est quoi ce qui ressort le plus? Raphaël, t'as dit Dark Vador, t'as fait la confusion en disant Dark Vador le héros et le méchant, tu vois?
Oui, Dark Vador.
Star Wars, quoi.
Ouais, non, mais oui, il faut, je dirais, forcément, effectivement, un personnage un peu emblématique que t'as envie de suivre, dont t'as envie de percevoir un peu la destinée qui lui est promise tout au long de la saga. Donc, je pense que c'est avant tout une histoire de personnage. Pour moi, personnellement, je pense que c'est avant tout une histoire de personnage plus qu'univers, parce qu'au final, il y a pas mal de sagas que j'aime bien qui se déroulent dans plein d'univers différents. Donc, j'ai tendance à dire que l'univers est peut-être pas si important que ça. C'est plus vraiment le destin d'un ou de plusieurs personnages et les quêtes, on va dire, même si c'est pas forcément le bon terme, mais et ce qui va être construit autour de ce personnage en termes d'histoire.
Camille, qu'est-ce qui est important pour toi?
Déjà, il faut savoir si on se pose dans une dans le type saga cinématographique, vraiment en cinéma, je pense qu'il y a la forme qui va porter beaucoup, dans le sens il faut quelque chose qui dure un certain nombre de films et qui va pas s'étendre. Il faut vraiment quelque chose la saga au départ Star Wars, c'est les trois films. Il y avait vraiment un début, une fin. Même s'il y avait des choses qui pouvaient se continuer, mais il y avait vraiment un arc narratif qui durait sur quelques films et qui vraiment s'arrêtait et donc qui racontait quelque chose et qui donc avait une conclusion. Et donc après, je pense que comme on est dans le cinéma aussi, donc faut pas que ça dure des années. Enfin, faut pas que ça dure un nombre incalculable de choses. Faut pas que ça traîne en longueur. Il faut que ça soit assez fort pour que ça tienne dans les deux heures ou un peu plus de film. Parce que finalement, c'est peu par rapport à ce qu'on peut maintenant connaître avec les séries télé. Ce qui change pas mal de choses maintenant dans la façon de faire des films aussi, c'est que on raconte pas la même chose dans une série qui est télé, qui va durer 10 épisodes, qui va faire pratiquement 4 heures de contenu par an et qui va faire au moins 2 saisons le temps qu'un film se fasse, que dans un film qui va faire 2 heures et qui doit être très, très efficace, quoi.
C'est vrai, ça c'est vrai que c'est un nouveau moyen de comparaison qu'on a aussi.
Et toi, Alain, Parce que tu nous demandes, mais toi, qu'est-ce qui...
Oui, oui, c'est vrai, je me suis mis à poser des questions, c'est un vieux réflexe.
C'est un tic.
Bah oui, oui, oui. Non, mais bah, après, moi, je pense que c'est un peu ce qu'on disait avec Dark Vador, il faut un bon méchant, il faut quelque chose de fort. On va parler d'autres sagas où il y a en effet des univers un peu originaux. Tu vois, je pense Jurassic Park, par exemple. Bon, bah évidemment, c'est le côté... dinosaures, etc. Les personnages sont pas forcément fabuleux, mais il y a un truc, moi, tu vois, c'était quand j'étais gamin, bon, bah, t'accroches avec les dinosaures et ce genre de trucs-là. Mais dans l'ensemble.
Après, est-ce que les dinosaures sont pas des personnages en soi, hein?
Oui, c'est vrai.
Le T-Rex, c'est presque un personnage en soi, au final, dans Jurassic Park, hein, je veux dire, c'est.
Ouais, c'est vrai, et c'est lui le grand méchant, au final. Donc,
ouais,
oui.
Tu vois, c'est presque.
Mais moi, je pense que c'est ça. C'est un peu, ça se joue souvent sur la qualité du méchant, quasiment la qualité d'une saga, parce que bah, tu le vois, des fois, les gentils sont pas non plus les plus, ceux qui t'inspirent le plus ou ceux. Alors, je sais pas si c'est le bon mot parce qu'on va croire que je m'inspire des méchants. Mais tu vois, l'idée, c'est que j'ai envie de dire que, ouais, en général, un bon méchant, il va tenir un truc, alors que des fois, bon, les gentils sont dans leur rôle et c'est plus difficile d'être original là-dessus. Après, on a eu, tu vois, dans les séries, plein d'anti-héros, les Dexter, les trucs comme ça, ces dernières années, ça s'est développé. J'ai pas l'impression qu'il y en a encore beaucoup dans les sagas, tu vois, c'est plus un truc de série.
Oui, d'autant qu'il faut du temps aussi pour développer un personnage, donc c'est pas toujours facile avec un film.
C'est ça. Donc ouais, je pense qu'on est aussi là-dessus, sur les personnages et plutôt sur les méchants. Ce que je vous propose, parce que pour la structure de cette émission, il y a un truc simple moi, que je peux vous proposer, que j'ai regardé un peu sur Wikipédia, c'est que je vous donne par ordre, on va parler donc des franchises et des sagas. Alors on fait la différence, Camille, tu l'as bien fait en préparant l'émission. Saga, on dit continuité dans l'histoire. Franchise, c'est le même univers, mais pas forcément de continuité. Et on peut être les deux en même temps, c'est-à-dire Star Wars est une saga, les films ont la même histoire, développent les mêmes histoires, et sont dans le même univers. Donc, je vous donne les franchises qui ont fait, les franchises ou saga et ou saga, qui ont fait le plus de films. Vous me dites si ils sont allés trop loin, pas assez loin, s'ils se sont arrêtés au bon moment, ou si c'est vraiment de la merde. On est d'accord ?
Ok,
allez.
Bon, on est parti donc sur la liste des grandes franchises cinématographiques du 21e siècle. Je vous le dis tout de suite, j'ai commencé à 5 films. J'ai rien en dessous de 5 films parce qu'il y en a tellement au-dessus. Mais ouais, il y en a tellement au-dessus. Alors, en fait, la page Wikipédia commence à 4, de toute façon. C'est-à-dire que pour eux, 3, bah, en fait, il y a tellement de trilogies. Tu vois, on y passerait des heures, rien que les parrains, les trucs comme ça.
Ah, c'est
les,
dommage, enfin, on rate. Ouais.
Alors, vas-y, sinon, dis-moi en dessous, on peut parler de ce qu'il y a en dessous quand même.
Non, mais.
Parce que tu penses tout de suite aux parrains, non ?
Bah, je pense aux parrains, ouais, aux parrains en saga en 3 et puis à Retour vers le futur, quoi.
Ouais. Mais alors, justement, après, c'est aussi un débat. Est-ce que au-dessus de 3, c'est déjà trop ?
Moi, je pense que, ouais, j'aime bien. Alors, pourtant, je suis pas, je suis pas religieux, mais je trouve que le 3, une forme de. Les triptyques, ça marche bien, en fait. Comme tu as dit, sorte de philo à l'époque, tu vois, je trouve qu'il y a un certain sens avec 3. Je pense qu'il y a quelque chose de très. Ouais, non, vas-y.
C'est un bon projet de comédie française, ça, thèse, antithèse, synthèse.
Ouais, bah voilà, trilogie. Tu vois. Eh bah voilà.
Camille, 3 ou plus ?
Ouais, non, c'est vrai que faut pas forcément aller beaucoup plus. Surtout que bah, finalement, plus tu vas faire long, plus tu vas vouloir. Faire des arcs narratifs qui vont pas forcément être qui sont là pour faire durer les choses plutôt que pour raconter quelque chose. Voilà,
c'est quoi ta trilogie référence dans ce cas-là ?
Non, mais c'est vrai que Retour vers le futur, dans le côté grand public mais efficace, c'est vrai que ça marche vraiment bien, quoi.
Ouais, pour le coup, clairement. C'est marrant, c'est celui qui est revenu le plus. On en a parlé même dans la rédaction de TDA. C'est celui qui revenait le plus. Le parrain, t'es sensible. Je sais que Raphaël adore le parrain. Toi, Camille, il y en a pas eu plus que 3 le parrain. Il n'y a pas un 4. Non
bah, à part s'il y en a un secret caché, une
non,
version.
Non, non, je sais pas. Je posais la question. Je savais pas.
Non, je vois pas.
Ouais, okay, ouais. Après, j'ai pas vu les 2 et 3 du parrain, j'avoue. Donc,
Oh là là Et Raphaël, il va pas être content. Moi, je les ai pas vus non plus. Hein, mais Raphaël, il est pas content quand on dit ça.
Après, on est peut-être un peu autre part. Là, on est presque dans le film d'auteur. Enfin, c'est un peu différent, mais évidemment. Ouais.
Bon, alors préparez-vous à tailler parce que là, je vais vous donner des trucs qui sont allés beaucoup trop loin. 5 films, messieurs, de 1993 à 2018. 8e franchise la plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est dans l'actu parce qu'il y en a un autre en projet. Je vous donne le pitch du prochain. Attention, accrochez-vous. À la suite des événements de Jurassic World, Fallen Kingdom, Owen, Claire, Macy, Zia et Franklin s'échappent, tandis que Blue et les autres dinosaures fuient le domaine. Pendant ce temps, Ian Malcolm déclare le début d'un âge néo-jurassique où les humains et les dinosaures doivent apprendre à exister côte à côte. C'est donc Jurassic Park. Et alors, quand tu lis un pitch comme ça, il y a très peu de choses qui disent « on est allé beaucoup plus loin » que « un âge où les dinosaures et les humains doivent exister côte à côte ».
Ouais.
Est-ce que là, on n'est pas dans le... Comment dire? Bah le symbole quoi du truc qui est allé trop loin, c'est-à-dire que déjà dans le précédent il dressait des raptors, ce qui est quand même le putain, c'était horrible. Raphaël il a trouvé un tweet, il me l'a envoyé cette semaine, où il y avait un mec qui disait en sortant de Jurassic World Fallen Kingdom
on va essayer de le faire de manière polie, mais c'était
non,
on
mais
a
tu peux le dire
et ben non, de mémoire que... c'était on a chié dans ma bouche et sur mes rêves d'enfant, un truc comme ça, enfin
ouais. Et ben franchement c'est horrible, j'étais gamin quand Jurassic Park est sorti, franchement c'est les deux derniers là, mais quel enfer, putain quel enfer, genre tu dresses pas des raptors quoi. C'est un peu d'ailleurs montré que Anakin Skywalker Dark Vador était une grosse pleureuse en fait. Tu vois, c'est un peu la même chose, quoi.
Ouais, puis il y avait vraiment le côté, dans les premiers, voilà, c'était le... C'est pas tout à fait un film d'horreur, mais c'était un peu le danger total des monstres qui s'échappent. Il y avait quelque chose d'hors de contrôle. Alors maintenant, est-ce que tu dois vraiment continuer pour dire, bah justement, maintenant, il faut qu'ils cohabitent, c'est des choses qui se passent en parallèle. Non, il faut jouer sur la symbolique, voilà, c'est...
Mais c'est ce que tu dis, tu vois, on parlait de méchants et tout, que les dinosaures étaient des personnages. Le raptor, c'était le méchant ultime, quoi. La scène dans le premier où ils sont dans la cuisine avec les gamins. Enfin, tu vois, c'est trop bas, quoi, hein. Quand t'es gosse.
Ouais, non, c'était assez.
Et là, ouais, on en est à l'autre qui les caresse et qui leur a dit non, vas-y, on est potes, limite, ils checkent et tout, quoi, tu vois. Donc là, moi, quand j'entends où les humains et dinosaures doivent apprendre à vivre côte à côte, je pense que je les imagine dans le film en train de mater le Super Bowl et de se passer les pop-corns, tu vois. Ça va être l'enfer. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas une règle ultime? Moi, j'ai pensé à ça en préparant l'émission. Il y a déjà des posters là, de ce prochain Jurassic Park où ils ont mis Jeff Goldblum et les deux savants, je ne me rappelle plus, là, qui sont dans le premier. Est-ce que quand on arrive au fanservice, c'est... à peu près la phase terminale de la saga, quoi.
Ah bah oui, en général, moi je te rejoins, c'est le signe que t'es allé trop loin et que t'es obligé de rappeler des anciens souvenirs et de remonter sur de la nostalgie à tout prix pour presque justifier ton reboot de la saga, parce que c'est pas un reboot pour le coup, mais presque, voilà, je continue, et tiens, j'ai un épisode de plus parce que je vais mélanger l'ancienne version et la nouvelle, alors regardez, ça vaut le coup de faire une nouvelle réunion, quoi, mais c'est absolument scandaleux, mais bon.
Mais c'est pas fini, parce que c'est vrai que maintenant, le cinéma, ça coûte tellement cher pour un résultat qui est assez court, qui est assez épisodique par rapport à, par exemple, à la télévision. Tu prends beaucoup de risques et c'est vrai que t'as l'impression que toutes les productions essayent de retrouver ces éléments-là qui ont marché, c'est pour avoir un justificatif pour dire voilà, on a Jeff Goldblum, ça va au moins minimum marcher, vous allez en voir un petit peu et ça suffira à vous faire venir, quoi.
Quel enfer. Bon, on est d'accord, c'est aller trop loin pour celle-là.
Oui.
Deuxième saga, pardon, que je vous propose, 6 films depuis 1983, le dernier est sorti en 2019, je parle de Rambo Last Blood est sorti en 2019. Alors là c'est un autre stade, est-ce qu'on n'en est pas au film qui devient la caricature de lui-même?
Ah bah ouais, oui, un peu la caricature de lui-même, la caricature de son personnage, enfin... C'est Stallone après, ce qui est compliqué avec Stallone, c'est qu'il a deux sagas caricaturales sur lui-même, donc ça devient un peu compliqué, ouais, à l'analyser, à le psychanalyser, le pauvre. Mais non, c'est vraiment dommage, parce que t'as un premier épisode qui est vachement bien, qui d'ailleurs passait aussi ce lundi 9 novembre à la télé. Donc t'as un premier épisode vachement bien, et après ça se perd complètement, tu perds le propos de base sur le retour d'un homme et ses traumatismes, enfin bon, c'est une faillite aussi. Ouais.
Camille, est-ce que tu t'es fait un petit kiff devant Last Blood ou pas du tout?
Non, mais c'est vrai que les Rambo, j'ai jamais dû les faire, mais effectivement, je sais que le premier, c'était quand même assez fort sur le côté ancien combattant, traumatisé, etc. Et finalement, tu te retrouves avec une série de films qui va te glorifier un peu le combattant... film d'action à mort, donc ça devient un peu, ouais, c'est un peu perverti l'origine de cette série, et c'est vrai que ça devient moins attirant, quoi.
Bon, c'est allé trop loin. Passons à celui qui va nous valoir beaucoup d'amis, qui aurait pu faire une émission à lui tout seul. 6 films de 2001 à 2014, c'est Le Seigneur des Anneaux. C'est une saga. Dans les faits, elle continue pas vraiment. Donc, c'est une saga très longue. Est-ce que ça se tient? Alors, 6, c'est Seigneur des Anneaux plus Le Hobbit. En fait, c'est une franchise.
Ouais, du coup, c'est ça. Ouais, tu mélanges les...
Ouais.
Oui.
Bah, finalement, il n'y a pas eu vraiment de grosse adaptation de ces bouquins-là depuis qu'ils sont sortis. Donc, voilà, adapter le Seigneur des Anneaux, ça devait se faire, quoi, dans un sens. Mmh. C'est plus le côté peut-être le Hobbit qu'ils ont voulu le faire en 3 films, alors qu'à la base c'était un bouquin un peu plus court, où là ils sont peut-être un peu ils sont effectivement un peu plantés, où c'était, ils ont fait un peu durer quelque chose qui en avait pas la substance, quoi.
Mais Amazon n'a pas un projet de série Seigneur des Anneaux qui traîne depuis quelques temps déjà. Il me semble qu'ils avaient commencé la production d'une série Seigneur des Anneaux. Visiblement, le Covid a ralenti toutes les productions à travers la planète. Donc, potentiellement, ils ont aussi pris du retard là-dessus. Mais à surveiller, mais il me semble qu'Amazon a un projet de série autour du Seigneur des Anneaux.
Bon, donc, t'as vu, on n'a même pas eu l'occasion de taper dessus, Raphaël, et de dire que ça nous ennuie et que c'était déjà beaucoup trop long, 6 films, et même le premier, on s'est endormi au milieu, tout ça. Tout ça.
Ouais, bon, après, moi, je te rejoins, hein, j'avoue que... comment dire, je reconnais, je trouve que ça fonctionne globalement quand même, faut avouer, les films se tiennent, t'es pas sur des nanars, t'es pas sur... Enfin, ça se tient, tu vois, faut pas non plus... Mais pareil que toi, je trouve qu'au bout d'un moment, c'est un peu long et bon.
Non, mais en fait, si je suis pas de mauvaise foi, je comprends qu'on puisse aimer, c'est juste que c'est pas ma cam, quoi.
Oui,
c'est
voilà,
vraiment,
après,
voilà, c'est pas du tout mon univers. Bon, alors repartons sur de la production cinématographique de qualité, messieurs. 6 films depuis 2007, les Transformers. Ah, je vois une petite grimace sounette sur le visage de Camille. Alors, est-ce qu'on est sur un truc qui a aucune prétention artistique et du coup,
oui, bon, c'est vrai,
voilà, c'est du cinéma popcorn.
Ouais, et puis c'est du Michael Bay, donc c'est particulier, ça m'intéresse vraiment pas. Mais même là, je sais qu'il y a des adeptes, donc pourquoi pas. Mais ouais, c'est vrai que déjà l'univers m'intéresse pas vraiment. C'est des clichés à foison. Donc c'est vrai que autant c'est vrai qu'il faut reconnaître un peu la qualité, enfin cette façon de filmer de Michael Bay qui est pas la mienne, mais qui est tout à fait, qu'on peut vraiment apprécier. Autant c'est vrai que le reste du film et de l'univers, ça m'intéresse vraiment pas. Donc
après, ça veut dire que t'es pas un bon patriote si t'aimes pas Michael Bay. America first. Raphaël, les Transformers.
Moi là-dessus je peux aller vite, hein, j'en ai vu qu'un seul, donc je vais pas avoir prétention à analyser toute la saga, la franchise, hein, donc voilà, je trouvais ça assez horrible, ça explose dans tous les sens. Il y a clairement du talent d'artificier, ça sans aucun doute, moi je lui confierai sans problème le feu d'artifice du 14 juillet. Après voilà, bon
c'est de la franchise pure commerce, on est d'accord, quoi.
Oh bah oui.
Alors, à peu près dans le même genre, l'univers cinématographique DC, 7 films depuis 2013. On reparlera Jean en slip avec des pouvoirs un peu plus tard avec Marvel. Hein, je les ai séparés. Moi, en vrai, je ne fais pas la différence entre Marvel et DC dans ma tête. Mais est-ce qu'il y a des meilleures raisons de l'arrêter que l'autre? Alors, Camille, tu connais peut-être un peu plus que nous, d'ailleurs, ces univers-là.
Ouais, alors je ne sais pas si tu comptes les Batman vraiment dedans.
Alors non, c'est... Batman, il est à part. Voilà. C'est 8 films depuis 89.
Mais voilà, parce que Batman, il y a des bonnes choses à dire. Après, c'est vrai que DC, c'est un peu la croisée entre effectivement cette façon de faire un peu plus ancienne qu'on voit avec les Batman, mais qui peut permettre pas mal de choses. Et ils ont dû se dire à un moment, il faut qu'on fasse un peu comme du Marvel. Donc ils ont fait un peu la façon de Marvel, mais sans s'y mettre à fond, et ça n'a pas fonctionné à fond. Alors que finalement, je pense qu'ils ont beaucoup plus de choses à dire que Marvel, par exemple. Donc,
mais non, donc, du coup, on est d'accord, c'est de l'industriel aussi, quoi, en dehors des Batman.
Oui, mais il y a peut-être un peu plus d'idées pour en faire quelque chose de mieux. Mais comme ils se sont dit, il faut qu'on fasse sur Marvel, ils sont un peu ratés sur ce coup-là. Mais je pense qu'ils se sont rendus compte, quand on voit le Justice League, Suicide Squad, ils ont bien vu que ça n'a pas marché comme ils voulaient, parce qu'ils ont fait certainement un peu trop du Marvel.
Mais alors, vraie question de personne qui ne connaît pas ces films-là. Est-ce que c'est des bons films? Est-ce qu'il y a des bonnes histoires? Ou est-ce que c'est du pur divertissement, de trucs qui explosent et de gens qui se tapent sur la tronche?
Sur les DC, non, c'est quand même assez plus divertissement, quand même. Enfin,
Ouais, non, vas-y, excuse-moi.
Non, mais après, c'est pareil. Est-ce que tu comprends, est-ce que tu inclus le Joker, par exemple, dedans? Parce que c'est plus ou moins cet univers-là, mais c'est pas c'est pas produit par DC, quoi. Donc,
Alors, je sais plus dans lequel il était, celui-là, honnêtement. J'ai pas fait attention. Raphaël, tu as regardé certains de ces films-là? Je peux te donner les titres, hein, après, s'ils te font kiffer, mais.
Oui, j'en ai vu certains. Bon, alors moi de base, les hommes en slip ou pas en slip, les femmes en slip ou pas en slip, c'est pas trop mon dada, on va dire. Hein, donc j'avoue que j'ai jamais été un grand adepte. Après, je trouve que l'avantage du coup de ces franchises-là et de ces univers, c'est quand même la possibilité de, au final. Enfin, je suis pas choqué par le fait que t'aies plein de films qui sortent de ces univers, vu que c'est plein de super-héros différents, plein d'histoires différentes, si tu veux. Je suis moins choqué par le fait de faire 7 films basés sur l'univers DC que 6 films sur l'univers Jurassic Park, tu vois. Enfin, moi,
C'est
je
vrai.
trouve que ça se justifie plus du fait que t'as plusieurs héros, plusieurs histoires, enfin. Donc,
Et puis
ça
là,
me.
c'est l'histoire des. C'est l'histoire des comics, enfin c'est plein de reboots, d'arcs un peu
Ouais.
différents, des choses qui sont très vieilles, donc.
C'est ça, au final, moi ça me gêne pas tant que. Enfin, ça me gêne pas du tout, même si. Enfin, je suis pas surpris par que ce soit le succès, par le nombre, parce qu'effectivement, là, t'es vraiment dans une idée d'univers entier, avec plein de gens à suivre. Donc, bon, après, moi, je suis pas client, ça me.
Le Batman, t'en parlais Camille, donc c'est 8 films depuis 89. Là, c'est vrai que ça a l'air différent parce qu'il y a des vraies interprétations, il y a des vrais choix de réalisateurs, il y a des, tu vois, il y a quand même Nolan, Burton, enfin il y a des mecs qui sont passés qu'on reconnaît plus que sur les autres. Là, pour le coup, moi je suis plus client de Batman que des autres mecs en slip.
Oui, totalement. Plusieurs Batman, ça date de 1939, je crois. Enfin, c'est assez vieux. Hein. Donc, c'est un beat qui est assez vieux, qui s'est bien construit. Et pourtant, ils se sont permis de pouvoir enfin, à chaque fois, c'est des reboots, donc c'est presque un peu dommage. Mais à chaque fois, ils ont donné deux films à Tim Burton, qui a fait à sa patte. Même le deuxième, enfin, c'est le deuxième avec le pingouin où ils ont dit, ouais, fais un peu moins dark, on veut vendre des figurines. Et il nous a sorti le pingouin complètement creepy, et tant mieux. Et
Tu parles de celui des années 90 là?
ouais, c'est ça. Ouais.
T'as, il fout les jetons celui-là, moi j'étais
Non, mais
gamin.
c'est ça. Et finalement, tu dis, ben voilà, en 89, ils ont réussi à sortir ça, à donner les clés à un réalisateur. Après, on aime ou pas Tim Burton, mais au moins, voilà, ça avait un certain cachet. Après, il y a eu deux films de Joël Schumacher,
Des
un peu moins.
Schumacher.
Ceux avec George Clooney là.
Voilà, peut-être
Oh
un
la
peu trop.
vache.
Voilà, c'était peut-être un peu trop. Mais par contre, après, voilà, ils ont relancé avec Christopher Nolan, qui apparaît, c'est une patte d'un certain réalisateur, c'est un propos. Donc il y a des choses à dire, même si effectivement, pareil, on est fan ou pas de ce réalisateur, mais au moins il y a quelque chose qui vient avec cet univers-là. Et pareil, derrière, t'as le Joker qui est un peu en dehors, parce que c'est plus ou moins officiel comme adaptation, mais c'est pareil, c'est une vraie interprétation avec un propos. Pareil, c'est pas un film qui, je suis pas totalement à fond sur le film et sur le propos du film, mais au moins voilà, ça, il y a des choses qui se passent, et c'est un peu le bon exemple de ce que tu peux faire. C'est pas, voilà, même si les films Star Wars sont pas, voilà, sont pas été très bons ces derniers films, ça, l'univers n'empêche pas que tu reprennes avec une autre histoire, avec un réalisateur, donner les clés à un réalisateur qui a un peu des couilles, un peu qu'un propos comme ça a donné, parce que l'univers le permet, et voilà quoi.
Ouais, donc Batman, c'est pour le coup, on en redemande et c'est l'exemple à suivre un peu, Raphaël. Ça te client aussi, toi, de cette approche-là de donner à des réalisateurs, d'avoir des choix, d'avoir des choses, quoi.
Oui, non, ça, le côté, je rejoins ce que Camille dit, au moins quand tu donnes ce genre de film, d'univers à des réalisateurs qui ont des conceptions particulières, qui ont une patte, ça te permet d'avoir des trucs différents. Et clairement, les Batman de Tim Burton ressemblent absolument pas à ceux de Christopher Nolan, et donc c'est vraiment des œuvres, c'est vraiment des films différents, t'as pas l'impression de voir la même chose. Donc là-dessus, c'est effectivement, c'est peut-être un pari. c'est un pari intéressant pour les studios, pour cette idée de autour d'un même personnage de construire plusieurs films, toute une mythologie en ayant des approches différentes. Après, si on revient sur Star Wars, moi en fait je me demande à quel point c'est quelque chose de déclinable sur Star Wars, parce que je me demande si un des vices de base de Star Wars au final c'est pas d'être un univers entier qui finalement n'a de sens que, enfin, a été tellement construit autour de ses personnages principaux, les Skywalker, qu'en fait, à mon sens, je m'interroge sur est-ce que Star Wars a du sens en dehors des Skywalker, en fait. Est-ce que c'est un univers qui a, enfin, est-ce que tu vois, est-ce que tu, ouais, bah je sais, en fait, il a tellement été construit autour de cette histoire-là que est-ce qu'il a vocation à être décliné, c'est la question que je me pose. Alors que les DC, t'es directement dans l'idée d'un univers avec plusieurs super-héros, donc de fait, d'avoir plusieurs gens à suivre, en fait. Je sais pas, mais c'est un point de vue personnel. Hein,
En fait, moi, quand tu dis la comparaison Batman-Star Wars, tu vois, moi, je la voyais pas sur ce niveau-là. C'est que je me disais surtout que si tu donnais des épisodes de Star Wars à faire à des réalisateurs qui auraient plus les mains libres et qui pourraient faire plus ce qu'ils veulent, je pense que les fans pètent un câble.
Ah bah le 8 c'est complètement ça. Voilà. Enfin, on peut
le 8 étant le seul qui a fait des choix à peu près osés, et c'est déjà gentil avec le terme osé, mais il y avait des choix dans le 8 et ça a fait péter un câble à certains fans. Donc le truc c'est que des fois le fanservice aussi, il y en a qui ont que ce qu'ils méritent. Hein.
Ouais, non mais c'est un peu le problème avec Star Wars, parce que surtout avec à partir de la prélogie, ils ont sorti les 3 films, mais ils ont sorti aussi plein de séries animées, beaucoup plus de jeux vidéo qu'auparavant. Et tout cet univers étendu, c'est bien. C'est vachement intéressant à se plonger dedans. Mais aussi, quand tu dois refaire un film derrière, où tu dois t'adapter à tous les canons, à tous les trucs qui sont dits avant pour que ça marche bien, finalement, tu dois avoir quelque chose, tu demandes quelque chose de cohérent avant d'avoir quelque chose qui veut raconter quelque chose, quoi. Ouais. Et c'est un peu le problème, je trouve, des fois avec les fans de Star Wars, c'est qu'ils vont être fans de l'univers et de tous ces petits détails, le code Jedi, qu'est-ce qu'il dit exactement, quel Jedi a fait quoi, etc., que finalement tu peux plus raconter d'histoire que sans casser ces codes là donc faut se dire que avant tout c'est un film, et donc voilà, faut les codes qui sont racontés derrière de l'univers, on s'en fout un peu, faut avant tout que ça raconte quelque chose, quoi.
On va enchaîner avec les suivants. On va accélérer un petit peu parce que vous allez voir qu'il y a de la redite. Bon, Spider-Man, 8 films depuis 2002. Là, il y a des reboots, il y a des retours et des machins. Bon, c'est pareil. On stop ou encore, on est toujours sur l'industriel, là, je pense.
Bah, pour moi, c'est le même. Alors, c'est moins réussi que les Batman, mais en fait, c'est le même principe. C'est à chaque fois, tu t'essayes de dire quelque chose de nouveau. C'est moins réussi qualitativement que les Batman, mais. À partir du moment où tu le fais pour les Batman, tu peux le faire aussi pour les Spider-Man, tu vois, c'est le même.
On va enchaîner, parce qu'encore une fois, il y en a pas mal. Mon petit plaisir coupable, Fast and Furious, quand même, hein, 9 films depuis 2001. On est sur un tous les 2 ans, c'est un peu la même chose que les Transformers, hein, c'est l'usine, c'est le McDo du ciné. Après, il faut leur reconnaître un truc, c'est que ça va toujours plus loin dans le nawak. C'est-à-dire que les bagnoles, au bout d'un moment, elles sont propulsées d'avion, elles vont finir sur la Lune. Enfin, moi, je vais pas mentir. Ça peut être un petit plaisir. Tu vois, je tombe dessus le soir, c'est bourrin, c'est misogyne, c'est n'importe quoi. Mais bon, tu vois, ça me rappelle un temps où tout le monde était plus insouciant. Hein. Tu vois, tu pouvais faire des gros plans sur les culs des meufs comme ça, c'était nawak, c'était misogyne de fou et tout, mais bon, on s'en foutait. Hein. C'était n'importe quoi, les bagnoles qui passaient sous des camions, sous des trucs, les mecs qui se tapaient sur la gueule, les démonstrations de virilité, enfin... Bon, bref.
Les présentations, les objectifs de ce film sont pas les mêmes, c'est pas les prétentions sont pas les mêmes, donc évidemment tu vas au moins te dire ouais, moins en vouloir à Fast and Furious d'en faire 15 films que 3
choses,
bah,
je pense que là on est sur du popcorn pur, mais du coup moi je peux pas leur reprocher de continuer. Après je dis ça, j'en ai pas vu, j'ai dû en voir 3, hein, mais bon. Harry Potter 10 films, mais là on est un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est de l'adaptation de bouquins, donc voilà, ils sont restés dans les clous. Usina film X-Men 12 films depuis 2000 quand même pour les X-Men, mais bon là je pense qu'on revient dans le débat ce qu'on avait tout à l'heure sur les Marvel, etc. Il y en a un qui est complètement improbable, qui est devenu une série de 14 films, vous n'allez jamais deviner C'est un film qui est sorti en 98. Si je vous dis un chien qui joue au basket.
Il n'y a pas les Beethoven, un truc comme ça, non ?
Non, c'est Air Bud. Et bah dites-vous que le film Air Bud avec le Klebs qui joue au basket, et bah c'est une série de 14 films maintenant avec des Golden Retriever en vedette. Donc okay. On parlait de personnages forts. Et bah voilà, Air Bud, ça fait 14 films. Godzilla, ça fait 16 films. Alors c'est très très différent parce que ça commence en 57. Il y a des versions japonaises, c'est... américaines, rebootées, contre King Kong aussi. Donc c'est un vrai bordel hein, cette franchise, on va pas le mentir. Bon, il y a un vrai thème qui est sur un Japon traumatisé par le nucléaire. Il y a un combat entre l'homme et la nature. C'est vachement intéressant, le propos de base. Après, c'est dur de s'y retrouver, en fait. Moi, je voulais en regarder, mais c'est assez dur de s'y retrouver. Il y en a avec Jean Reno, d'ailleurs, de mémoire.
Ouais.
C'est le premier de...
Ouais, le premier américain, je crois, parce qu'ils ont mis du temps à le faire en version américaine. Il y en a un qui vous a marqué dans cette série-là, ou pas du tout, Godzilla ?
Peut-être le seul que j'ai vu, donc je t'avoue que...
Bon. Alors on va terminer sur les deux plus gros morceaux. L'univers cinématographique Marvel, 23 films depuis 2008. 23 films, on est d'accord. Il y a des séries françaises qui ont tourné moins d'épisodes que ça depuis 2008. Il y a eu 3 films rien qu'en 2019. Est-ce que... Alors là, pareil, Camille, t'es l'expert. Enfin, en tout cas, tu t'y connais plus que nous. Est-ce que ces films, comment dire, est-ce que les gens s'y retrouvent d'ailleurs dans tout ce qui sort ? Parce que moi, on a un canal sur le Slack de la rédaction où les gens parlent de ces trucs-là. Ils envoient tellement de bandes annonces et de machins que je sais même plus duquel on parle, tellement ça va vite.
Bref, je pense que quand t'es dans cet univers, tu te retrouves. Parce que finalement, c'est même l'objectif. Mais ouais, c'est la manière de, enfin c'est cet univers-là, tu vends, t'en veux, donc après j'ai pas tout vu hein, j'en ai vu quelques-uns, mais il y a des bons trucs, c'est vrai que ça traîne aussi, c'est fait un peu pour remplir dans le sens où voilà, faut raconter un peu l'histoire de chaque super-héros, pour raconter un peu leur regroupement, leur division, leur défaite et leur victoire, mais c'est vrai que j'ai vu les Avengers par exemple, c'est vrai que ça me le propos du il y a plus de propos du film quoi, c'est vraiment faut raconter des choses, faut raconter les super-héros, faut leur donner des histoires, mais après est-ce que ça raconte quelque chose de spécial?
Oui, donc c'est juste là pour... oui. Alors justement, j'avais prévu une spéciale pour Raphaël, parce que je sais que tu aimes Le Parrain. Donc j'avais un petit mot de Francis Ford Coppola au sujet de ces films, qui disait « Martin Scorsese a raison quand il dit que les films Marvel ne sont pas du cinéma, dans la mesure où il veut que le cinéma lui apprenne des choses, le fasse grandir, fasse la lumière sur certains points ou l'inspire. Je doute que quiconque gagne quoi que ce soit à regarder les mêmes films encore et encore. Martin était gentil en se contentant de dire que ce n'est pas du cinéma. En revanche, il n'a pas dit que c'était méprisable, mais moi, je n'ai pas peur de l'affirmer. »
Ouais, j'irais peut-être pas jusqu'à méprisable, mais...
Ouais, pareil, j'irais peut-être pas jusque-là, parce que là, en plus, ça fait un peu la vision du vieux réalisateur qui a eu son succès dans les années 70, qui depuis est un peu en galère quand même aussi, hein, parce que Coppola, il est mignon, mais ça fait un petit moment qu'il a pas fait un bon film quand même. Je pense qu'il y a... J'entends le propos de fond, après, je le trouve un peu dur malgré tout, parce que... Qui est-il et qui sommes-nous pour juger ce qui apporte à quelqu'un, tu vois, il y a peut-être des gens qui s'y retrouvent très bien là-dedans et tant mieux pour eux, donc voilà, après, plus globalement, je rejoins Camille, je trouve que ça raconte quand même pas grand-chose, enfin, c'est vraiment 2 heures pour montrer quelque chose pendant 2 heures, et puis voilà, quoi, tu passes sans problème à autre chose, je suis pas sûr que tu t'arrêtes une heure après le film en disant, tain, mais en fait, ce que je viens de voir, attends, mais...
Moi, j'avoue que j'en ai vu aucun, donc j'ai vraiment aucun avis. Si ça fait kiffer des gens, tant mieux pour eux. Mais j'avoue que moi, je suis complètement hermétique à ces univers-là.
Après, il y a des bons films aussi, mais il faudrait pas que ça devienne aussi une influence trop forte, parce que Marvel a tellement tout écrasé que t'as l'impression qu'il faut faire la même chose. Les Star Wars, la dernière trilogie, c'est un peu à cause de Marvel aussi, parce que fallait un peu faire la même façon, et même des choses quand on voit les adaptations d'Harry Potter, de grands trucs comme ça, de sagas un peu qui sont basées sur des bouquins, c'est pareil, tu peux plus faire quelque chose t'as l'impression que tu peux plus faire un film qui se tient tout seul, tu peux plus faire même on dit que c'est la fin, est-ce qu'on peut faire encore des sagas au cinéma, mais en plus on peut même plus vraiment faire de films tout seul sans suite qui racontent juste une chose, donc effectivement, c'est plus l'influence que ça va avoir sur les productions qui m'interpelle, quoi.
Alors, le tout dernier, messieurs, celui-là, il est tout à fait dans un style différent et il sera bientôt dans l'actu. D'ailleurs, il y en a un qui est en route, qui devrait bientôt être en salle. Il a été retardé par la Covid. C'est James Bond. 24 films de 1963 à 2015. Alors, du coup, 2020, il y en a un qui arrive. Est-ce qu'il est encore cool, James Bond? Parce qu'à une époque, c'était quand même un peu le summum de la classe, quoi.
Ouais, c'est encore cool. Enfin, j'ai en tête Casino Royale parmi les derniers était quand même vachement bien dans mon souvenir. Peut-être ceux d'après, Skyfall, tout ça un peu moins, mais moi je trouve ça toujours pas mal. Après, comme tu dis, c'est quand même très différent en termes d'univers par rapport à tous les autres, parce que là c'est. Mais moi je trouve ça sympa. C'est un film d'espionnage à chaque fois à prendre séparément presque. Hein. Tu peux. Enfin, il n'y a aucune continuité, donc tu les prends séparément. Moi je continue à trouver que ça cool. Donc
c'est un peu adaptable à l'infini, quoi. Enfin, tu auras toujours besoin d'un agent secret dans 20 ans, dans 50 ans. Tu pourras toujours faire des films un peu dessus sur cet univers-là, parce que c'est totalement adaptable, quoi.
Moi, je trouve qu'ils ont complètement raté le. Je trouve qu'ils ont pas complètement, mais ils ont raté un virage il y a 10 ans quand ils auraient dû embaucher Idriss Elba. Tu vois, maintenant c'est trop tard parce qu'il est trop âgé et trop connu pour les standards de à chaque fois trouver un nouveau Bond.
Ouais, mais après,
je trouve que il aurait été parfait et je trouve que Daniel Craig, j'aime pas du tout Daniel Craig en fait dans ce costume de James Bond. Après voilà, c'est des sensibilités. Tout le monde a son James Bond préféré. Hein. Je l'ai bien aimé dans Skyfall, mais sinon je sais pas, ça fait un peu action hero basique et je sais pas.
Finalement non, enfin je trouve un peu dur parce que finalement justement ce qu'il a amené à partir de Casino Royale, c'était un côté un peu plus sombre et plus brutal, mais dans le sens pas film d'action qui tire à, mais plus un peu psychologique aussi. Et donc je trouve que t'es un peu dur parce que finalement c'est un peu le renouveau qu'il y a eu avec à partir de Casino Royale, c'était ça, c'était un peu quelque chose qui sortait un peu du James Bond un peu poli de celui qui est avant, je sais plus.
De Brosnan. Enfin,
voilà,
c'était Pierce Brosnan.
Ouais, c'était un peu plus. Voilà, c'était un peu plus genre idéal. C'était quand même un peu moins.
Donc
là, c'était un peu plus sombre et ça renouvelait un peu le genre. Même si effectivement, les deux derniers, moi, me plaisent moins et perdent un peu ce côté-là. Mais finalement, c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi adaptable, c'est que t'es pas à l'abri d'un renouveau d'un acteur qui va apporter vraiment quelque chose de nouveau, comme l'a fait un peu Daniel Craig pour moi.
Voire d'une actrice, parce qu'il y a des rumeurs, comme quoi le rôle pourrait être confié à une actrice. Donc,
Mais après, comment dire, là où je me suis mal exprimé, Camille, je suis d'accord sur le fait que dans le propos, il était en effet plus moderne et un peu plus nuancé, Daniel Craig, mais c'est vraiment moi sur Daniel Craig en lui-même, parce que je trouve qu'il joue ça, mais avec deux expressions de visage. Et donc du coup le côté nuancé et plus sombre il me touchait pas du tout, quoi. Donc c'est plus ça éventuellement qui m'a embêté. Bon, James Bond, donc on continue. Raphaël, ça va être l'heure de passer au quiz et c'est toi qui as pris.
Attends, juste si je peux me permettre.
Dis-moi.
Par contre, dans ton tableau il manquait quand même les Rocky qui sont allés à plus de 3 films.
Alors en fait, ouais, je les ai pas tous faits parce qu'il y en a tellement. Pour te dire, il y a même Predator à 6 films, Alien à 7.
Et je tenais quand même à mentionner, alors je sais qu'ils ont fait que 4 films, du coup ils rentraient pas dans ton critère de base, mais je voulais rappeler à quel point le Indiana Jones 4 avait détruit la saga, qui était jusque-là probablement la meilleure saga avec 3 films et qui s'est fait totalement détruire par le 4ème, qui est une honte. Voilà, c'est tout. C'est tout pour moi. Je voulais juste finir là-dessus.
Alors, j'allais vous dire, je vous les donne en vrac, hein, mais il y en a plein. Die Hard, c'est 5 films. Toy Story, c'est 4, par exemple. Même Scary Movie, hein, c'est 4. Si vous voulez, Scream, 4 films. Men in Black, 4 films. Mad Max, 4 films. Les Visiteurs, je vous ai pas. Voilà. Mais il y en a des tonnes. La Vérité, si je mens. J'ai pas fait L'Âge de Glace parce que c'est de l'animation. Taxi, c'est 5 films. Bon, je vous ai épargné de parler de la saga Taxi. On a fait. Alors, attendez, 6 films. Il y a Mission Impossible qui est sur 6 films. Predator, Terminator. Voilà, il y en a énormément, donc j'ai fait une petite sélection, mais t'as raison, oui, c'est vrai que Rocky c'était 8 aussi, Saw c'est 8, on n'a pas fait de film d'horreur, mais il y a Saw. Voilà, donc Freddy c'est 9 films, il y a des trucs, La Planète des Singes, 9 films, il y a des trucs, moi qui m'ont. Vendredi 13, il y a 11 films.
Ah oui, bah les Vendredi 13, ouais, c'est une sacrée arnaque. Bon, bref,
je savais pas.
Je sais pas si t'as eu l'occasion d'en voir un, mais.
Non, même pas.
Eh ben, ne perds pas ton temps.
Bon, voilà. Star Trek, il y en a 12, par exemple. Tom et Jerry, 14. Voilà. On va donc enchaîner avec le quiz. Raphaël, c'est toi qui étais aux commandes cette semaine.
Alors,
on t'écoute, c'est parti.
Ouais, alors je précise avant, j'ai décidé de changer un peu de format de quiz et je suis parti sur une sorte de Kikadi. Donc je vais vous proposer des petites citations issues des films Star Wars et l'idée c'est que vous essayez d'en trouver quel personnage a dit a fait cette citation et si vous êtes très fort dans quel épisode de Star Wars, hein, si là c'est pour le niveau.
Okay.
Mais vous verrez au ton des citations, vous pouvez retrouver certains épisodes assez facilement. Vous verrez, il y a pas de, des fois ça peut être simple.
Tu fais les imitations aussi ou pas?
Ah ouais, non, je suis pas assez calé, hein. Je suis pas assez calé, mais j'aurais bien aimé, c'est vrai, ça aurait pu être pas mal, mais bon, tant pis. Alors, première citation, un classique de Star Wars qui m'a toujours fait rire. Est-ce que t'es un ange?
Ah bah c'est pas Anakin.
Anakin dans l'épisode 1, je pense.
Ouais, c'est ça. Anakin à Padmé qui lui demande est-ce que t'es un ange?
Bon. C'est mignon.
C'est mignon, hein? C'est mignon. Alors, ensuite, j'en ai un nombre, comment dire, un nombre impair, comme ça on pourra vous départager même.
Ça marche.
Les scores et... deuxième... Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque.
Bah, c'est Obi-Wan, non?
Oh, peut-être Qui-Gon Jinn, épisode 1 aussi, mais.
Non, ah, bah, non toujours pas. Bah, Yoda, alors, dans ce cas-là.
Exact, c'est Yoda. Et alors, est-ce que t'as une idée de quand?
Ah, pour la... bah, dans 2, l'épisode 5.
Moi, j'aurais peut-être 2, mais.
Eh ben, c'est moi, le 5, ouais. C'est lors de son training avec Luke. C'est lors de son. Voilà. Hop, donc ça fait petit point pour Alain. Ensuite, tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit.
C'est Obi-Wan,
ah bah c'est
épisode 3.
Ça, ouais.
Ouais, c'est Camille. Épisode 3. Point pour Camille. Hop, hop, hop. Ah, j'aurais dû préparer une petite musique un peu de suspense pour les points.
On sait que tu te régales avec les citations des mauvais Star Wars.
Ouais, clairement. Ah bah alors là, c'est... Clairement. Alors... Ainsi s'est éteint la liberté sous une pluie d'applaudissements.
Ah, c'est Padmé dans l'épisode
3. Ah oui, 3, dans le 2, ouais.
Dans le 3, non?
3.
Ah oui, non, t'as raison, dans le 3, oui, quand il vote, ouais, ouais.
Oh là là, qu'est-ce qui me fait rire. Le 2 et le 3, j'aurais pu y passer des heures, parce que sincèrement, les gars, c'est magnifique.
Je croyais que c'était une citation de Mélenchon sur le vote de l'état d'urgence. Bon.
C'est fort probable. Ensuite... Tu sais contrôler ta peur, maintenant libère ta colère, seule ta haine peut me détruire.
Ah bah c'est Palpatine.
Non.
Dans les épisodes 6 et 9, vu que c'est les mêmes.
Vador dans 6.
Alors c'est Vador, bien Vador.
Ah oui, Vador. Ouais.
Mais
dans
du coup, c'est pas
dans
le
4.
C'est pas le 4.
C'est le 5.
C'est le 5.
C'est le 5.
Vador
à
Luke.
D'accord.
Dans le 5.
C'est une Bespin.
Ouais. Donc point pour Camille. Et alors vous êtes à égalité et je vais finir par une de mes préférées. Dommage, je vais pas réussir à faire le ton, mais le cœur y est. Préparez-vous bien parce qu'elle est pas mal. Hein. Ce
ça
baiser que
vite.
Tu m'as donné hante mes jours et mes nuits. Dans mes cauchemars, il ne
m'en
reste
plus
qu'une cicatrice. Attends, je la finis parce qu'elle est quand même fantastique. Hein. Dans mes cauchemars, il ne m'en reste plus qu'une cicatrice qui ne se refermera jamais. Tu t'es emparé de mon cœur et tu le mets au supplice.
Oh la vache. Mais c'est dur, hein, l'épisode 2 sur les dialogues. Hein.
Et donc, surtout, je l'ai vu, mais c'est...
Et
ouais,
ça
c'est
arrive,
ça, mais c'est bizarre parce que enfin.
Ah pardon, Kevin. Vas-y.
Non, mais t'as en plus cette scène, elle arrive. T'as deux scènes avant où ils sont ensemble, mais et finalement deux minutes plus tard, ils sont en train de se dire oui, c'est une blessure, etc. Enfin, ça marche pas bien. T'as la romance qui est condensée dans trois scènes qui suivent où t'as un peu tout. C'est super bizarre. Et
alors, cette citation arrive avant la mythique citation du grain de sable que personne n'aura oublié, bien sûr, et que tu as diffusé
ah bah,
en
oui,
début
oui,
d'épisode,
comme...
mais.
Ah ouais, j'aime pas le sable, elle est quand même... Elle est d'une violence. Bon, faut-il en finir avec Star Wars, du coup, messieurs, et les sagas en général, hein, on peut dire ça, c'était la question de cette émission. Il faut répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on met fin aux sagas ou pas? Camille, tu es notre invité, tu as la main.
Je dirais non, mais ça va être difficile, vu comme le cinéma est fait maintenant, d'en faire. Il va vraiment falloir se mettre au boulot et un peu laisser plus de liberté aux réalisateurs, aux auteurs en tout cas.
Raphaël, on arrête tout ça?
Alors, par principe, je vais dire non sur la saga, mais oui sur Star Wars.
Ah, pas mal. Moi, je vais dire, moi, président de la République, j'interdis les sagas. Comme ça, on force les gens à être à nouveau créatifs et à faire des bons films qui se tiennent sur une heure et demie ou deux heures.
Alors, du coup, ça pourrait faire un autre, mais moi, plus, j'interdirais surtout les reboots.
Ah oui, aussi, ouais.
Parce que, alors là, ça, c'est vraiment la feignasserie ultime, quoi.
C'est clair, c'est clair. Ou le pire, c'est les reboots déguisés en suite, comme Star Wars 6. 7, pardon, 7.
Ça, c'est vrai que ça, c'était le pire.
Mais tu vois, j'y ai pensé il y a pas longtemps, je me disais, j'essaie de me refaire des classiques des années 90 que j'ai pas vus, et j'ai l'impression qu'il y a moins de classiques, tu vois, type Usual Suspect, American Psycho, comment ça s'appelle, il y en avait un en Californie, là, je sais plus comment il s'appelait, avec... bref, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de films comme ça emblématiques des années 2000, si.
Je sais pas si... Peut-être c'est le manque de recul un peu qui nous donne cette impression, je sais pas. Faudrait
tu vois, faut du recul. Mais tu vois, comme La Haine en France, dont on parlait beaucoup ces derniers temps, comme. Je sais pas, j'ai du mal à trouver des films comme ça. Bon, en tout cas. On va finir avec une petite bande-annonce, parce qu'on a parlé tout à l'heure de clichés, de caricatures de soi-même, et puis on passe au faut-il des auditeurs. Vous allez voir, c'est très très fin. Je sais pas si vous allez réussir à deviner qui c'est.
J'ai passé ma vie à affronter la mort. J'ai regardé ce que j'aimais mourir. Certains foudroyés d'une balle, d'autres si abîmés qu'il ne restait plus rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé.
On est quand même entre le sketch des Guignols et le sketch des Inconnus, hein, là, sur le Stallone dans Last Blood.
Cela dit, c'est quand même les plus mythiques. Hein. Je crois que la voix de Sylvester Stallone, tout le monde peut la reconnaître. Oui. Enfin,
C'est incroyable. Les doublages des années 90, c'était très bien, hein, ça, mais là, moi, j'ai entendu cette bande-annonce, mais j'étais mort de rire. On dirait un sketch, quoi. Tu vois, c'est vraiment... c'est un sketch des Inconnus, moi, quand j'entends ça. Ouais. Bon, les fallait-il des auditeurs, on n'en a pas sous la main parce que je vais pas vous mentir, je les ai pas tous regardés. parce qu'en fait, c'est pour ça qu'au début, je demandais à les mettre sur les commentaires iTunes parce que c'était plus centralisé et Twitter, il faut que j'aille tout le temps jeter un œil et du coup, comme je suis de moins en moins sur Twitter, en plus, j'ai pas l'œil tout le temps dessus. Mais il y a plein de bonnes idées, on en a dans les tuyaux. Je peux vous le dire, on va reparler bière, notamment avec les camarades de Binous USA dans les semaines à venir. Et puis, on a des choses en stock. On a été contacté par un de nos auditeurs adeptes du survivalisme qui nous a envoyé des explications très intéressantes. Donc, on va creuser là-dessus aussi pour voir ce qu'on peut faire. Donc, non, il y a plein de choses en stock. On va pas rappeler toute la liste, surtout que là, on a déjà fait long. On va pas rappeler toute la liste qu'on a déjà fait la semaine dernière, dans l'émission. De la dernière fois. Mais en tout cas, on a pas mal de choses en stock. Hein. Je rappelle un petit peu, mais peut-on faire n'importe quoi avec la bouffe? Faut-il regarder des films de sport, se préparer à la fin du monde? Donc on en avait parlé. Regarder Top Chef, les réseaux sociaux, se mettre au télétravail, c'est vrai, en plus c'est d'actualité. Donc voilà, il y a pas mal de choses, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux, celles que vous préférez, c'est @serandompod sur Twitter et sur Facebook. Camille, est-ce que tu aimes Christophe Ondelat? C'est juste pour savoir si tu as le droit de rester.
J'avoue, je suis pas fan, mais je connais pas beaucoup, donc je serais pas d'une grande aide.
Adieu, bon, écoute, Camille.
Raphaël, c'est l'heure évidemment de parler de Christophe Ondelat et du Ondelat Universe. L'occasion d'ailleurs de souhaiter un bon rétablissement à Christophe Ondelat parce qu'il a été opéré et qu'il est en repos, comme on dit d'ailleurs. Je ne sais pas, j'en ai pas eu depuis 10 ans.
Repos, oui. Un arrêt maladie, en quelque sorte.
Un arrêt maladie, voilà. Excusez-moi, je suis indépendant, je ne sais pas ce que c'est. Donc oui, il est en arrêt maladie. Donc il y a des rediffusions pour les Ondelat racontent en ce moment. Et on l'avait dit la dernière fois, la chaîne YouTube est désormais fournie avec quasiment tout. Le fait d'entrer l'accusé de la semaine, alors moi j'ai pris du côté de Ondelat raconte, et c'est le tueur de la pleine lune. Alors je vais pas mentir, je l'ai dit, je suis en télétravail, je suis indépendant, je l'ai plus ou moins écouté d'une oreille, mais je vous le conseille, rien que un, pour l'accent espagnol slash périgourdin, qui m'a quand même tenu en haleine. Et un tueur qui a, je cite, selon une des victimes, une odeur de sous-bois. Et rien que pour cette expression, j'ai trouvé ça assez marrant. La personne a une odeur de sous-bois, donc je ne sais pas exactement ce que c'est, étant plutôt citadin.
Ouais, c'est ça, mais bon, on est citadin, mais on ne peut pas comprendre alors. Ça.
Voilà, donc je ne sais pas ce qu'est une odeur de sous-bois, mais ça, rien que pour cette expression-là, je trouve que le on la raconte sur le tueur de la pleine lune vaut le détour. Les recommandations, je suis désolé où j'en étais sur cette. Mais après, il y a eu pas mal de choses en plus avec les élections américaines et tout ça, j'ai juste pas eu le temps de les écouter, donc il y a pas mal de choses intéressantes. Il y en a un sur Columbine qui était intéressant d'ailleurs, où il détaille bien, tiens d'ailleurs plus sérieusement je crois que je vous recommande plus encore celui sur Columbine qui détaille bien minute par minute ce qui s'est passé, donc voilà c'est plutôt intéressant de ce côté là. Les recommandations générales, Camille, est-ce que tu auras une recommandation liée à notre sujet ou pas? Tu peux participer si tu en as une.
Je suis en train de un peu binge-watcher une série en ce moment qui s'appelle The Expanse. C'est une série de science-fiction et j'avoue je suis assez fan et je suis bien dessus. Et c'est vraiment pas mal. C'est quand même une bonne série avec pas mal de budget, mais c'est vrai qu'on en a pas tellement entendu parler en France, j'ai l'impression, qui est disponible sur Amazon. Et qui est vraiment pas mal pour ceux qui sont vraiment fans de science-fiction type Battlestar Galactica, choses comme ça. C'est basé sur une série de bouquins qui est écrit notamment par deux personnes, mais par un ancien assistant de George R. R. Martin. Donc c'est vrai que c'est un peu le Game of Thrones de l'espace, mais c'est vraiment pas mal.
Voilà. Ok, donc The Expanse, c'est sur Amazon, hein, c'est ça?
C'est ça.
Raphaël, ta reco de la semaine?
Écoute, moi je vais sortir du champ Star Wars, parce que comme je le disais, en dehors des films, je regarde rien ou je ne lis rien qui est autour de Star Wars, donc du coup je vais pas vous recommander les films, hein, ça aurait pas grand intérêt je pense. Je pars aussi sur une série qui est actuellement sur Netflix et qui s'appelle To the Lake, mais alors comme son titre ne l'indique pas, c'est une série russe. C'est une série russe, et alors c'est bien parce qu'on est totalement dans l'air du temps. La Russie est touchée par une épidémie et du coup tu suis un groupe de pour le moment survivants, je sais pas s'ils le seront tous très longtemps, mais un groupe de survivants qui du coup quitte Moscou pour se réfugier dans la campagne russe, et l'avantage c'est qu'elle est assez grande, hein, elle est assez vaste la campagne russe, donc il y a 2-3 endroits où aller. Donc voilà,
demande à Napoléon si elle est pas grande.
Ouais, c'est ça. Donc première saison, 8 épisodes, c'est assez rythmé, ça se tient bien, j'apprécie beaucoup. La fin de saison monte vraiment en suspense et gros cliffhanger on va dire sur la fin. Et puis je trouve ça pas mal parce que c'est au final des séries qui se passent en Russie, on en a pas tant que ça, donc c'est quand même un cadre assez original pour une série, des acteurs que t'as pas l'habitude de voir, une langue que t'as pas l'habitude d'écouter tout le temps parce que bien sûr c'est en russe, donc c'est vachement cool. Donc voilà, To the Lake.
To the Lake. Tiens d'ailleurs, en aparté, c'était pas ma reco, mais j'ai recommencé parce que je l'avais vu mais très d'un œil, The Americans, qui est à nouveau sur Amazon depuis pas longtemps et qui pour le coup est top. Et là j'y pense parce que ça parle russe aussi sur certaines scènes. Moi ma reco du coup était sans rapport avec Star Wars, sans rapport avec les sagas ni rien, c'est le film Palm Springs avec Andy Samberg et Christina Milioti. C'est une comédie romantique sur deux personnes qui sont bloquées dans une boucle temporelle le jour d'un mariage. C'est-à-dire qu'ils revivent encore et encore le jour de ce mariage. Andy Samberg, c'est Brooklyn Nine-Nine et quelques autres films. Et je crois qu'il y a Popstar avec Andy Samberg sur Netflix, notamment si vous avez Netflix. Il est très très drôle. Christina Milioti, c'est la mère dans I Met Your Mother.
Ah oui, celle qui sert à rien. Ouais.
Voilà. Là, elle sert plus. Et alors, c'est sans prétention, mais j'ai beaucoup aimé. C'est un vrai film qui tient sur une heure et demie. Avec, comme on disait, avec un début et une fin. Et ça fait plaisir, justement, dans ces temps où on regarde en effet beaucoup plus de séries ou beaucoup plus de films qui sont saga. J'ai beaucoup aimé ce film.
Ouais, Palm puis une heure et demie, c'est de plus en plus rare. Hein, parce que, pareil, les films ont tendance à tirer vers la longueur ces dernières années.
C'est clair. Et pourtant, et on le disait sur beaucoup d'autres choses d'ailleurs, mais c'est pas parce que c'est plus long que c'est meilleur, quoi. Non, mais c'est vrai, savoir dire les choses brièvement, c'est une qualité aussi.
Ouais, ouais.
On est d'accord.
Oui, tout à fait.
Bon, dit-il en dépassant l'horaire habituel de son émission. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 14 de Channel Random. Merci beaucoup, Raphaël.
Eh ben merci à tous les deux.
Eh ben merci beaucoup Camille encore de nous avoir rejoint. Camille, homme polyvalent, bière et cinéma. Est-ce qu'il y a d'autres sujets éventuellement encore plus éloignés, je sais pas, le cricket, la belote
sur... il doit bien y avoir des choses, mais
bon, n'hésite pas, en tout cas c'est toujours un plaisir de t'avoir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast, des petites étoiles et tout ça pour nous aider. Vous nous retrouvez, on l'a dit, sur Twitter et Facebook @crandompod. Bonne semaine à tous, on se retrouve très bientôt, c'est toutes les deux semaines maintenant. Ciao ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.